RFI et TV5 Monde vous présentent Afrique Presse. Denise Epoté.
Bienvenue à Afrique Presse, l'émission débat RFI TV5 Monde consacrée à l'actualité africaine et internationale de la semaine. À mes côtés, Hassan Diop de Radio France Internationale, Marie-Roger Biloa d'Africa International et Malik Diawara du Point Afrique. Au sommaire, le Zimbabwe à un mois de la première élection post-Mugabe. Emmerson Mnangagwa en campagne à Bulawayo dans le sud du pays a échappé à un attentat la semaine dernière. L'explosion d'un engin non identifié a fait 2 victimes et 10 de blessés. Le successeur de Robert Mugabe écarte la thèse d'un complot ourdi par l'opposition et accuse une faction au sein de la ZANU-PF, la génération 40 favorable à l'ex-première dame Grace Mugabe. CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, nouveau centre d'intérêt pour les pays du Maghreb. 3 nouveaux membres devraient intégrer le marché commun sous-régional de 200 millions de personnes, dont le sommet ordinaire se tiendra fin juillet à Lomé. La demande d'adhésion du Maroc est antérieure à celle de la Tunisie et de la Mauritanie. Cette dernière avait quitté l'organisation il y a 18 ans. Sorti indemne le week-end dernier d'un attentat en pleine campagne électorale, le favori à la présidentielle du 30 juillet, Emmerson Mnangagwa, accuse les partisans de l'ancienne première dame, Grace Mugabe. Hassan Diop, l'attentat n'a pas été revendiqué par Emmerson Mnangagwa, mais il accuse la faction favorable à l'ex-première dame, Grace Mugabe. Quelques jours avant la démission de Robert Mugabe en novembre, elle avait demandé le limogeage de ce dauphin devenu encombrant.
Tout à fait, oui. Mnangagwa, dans une interview cette semaine à la BBC, nos collègues de la BBC a affirmé effectivement qu'il s'agissait d'une... Enfin, il a mis la responsabilité de cette attaque, même s'il n'a pas avancé de preuves, donc la responsabilité de cette attaque sur cette faction qui serait restée fidèle à Grace Mugabe. En somme, une affaire de famille, c'est-à-dire que pour l'instant, depuis l'éviction de Robert Mugabe du pouvoir, d'ailleurs éliminé par la ZANU-PF, c'est-à-dire par sans doute ceux qui dominent au sein de cet appareil, dont les partisans de Mnangagwa.
Et le soutien de l'armée.
Et avec le soutien de l'armée, évidemment, aujourd'hui, il y a sans doute des tendances. Et que la rectification, entre guillemets, la remise ou la fin de ces clivages ou de l'existence de ces factions contraires n'interviendra sans doute qu'après l'élection présidentielle, si toutefois cette élection est remportée par Emmerson Mnangagwa. Ce qu'il faut retenir dans cette affaire, c'est que dès lors où Mnangagwa pointe du doigt une faction de la ZANU-PF, au moins il innocente aussi l'opposition, c'est-à-dire la principale force de l'opposition, le MDF,
qui aujourd'hui... Sanguiraï.
Pas Morgan Tsvangirai, c'est Chamisa qui lui a succédé, puisque Tsvangirai, le pauvre, est décédé il y a quelques mois de ça, des suites de maladie. En fait, j'ai presque envie de dire, c'est un peu tragique, parce qu'il y a eu quand même 2 morts. Je pense que cet attentat contre ce meeting électoral du président Mnangagwa, c'était sans doute l'événement le plus significatif de cette campagne électorale, où le sortant fait face à 23 candidats, et il est fort à parier... que c'est Mnangagwa qui va garder les rênes du pouvoir et qui va sans doute être élu dès le premier tour.
En tout cas, il est présenté comme le favori. Hein.
Bah, il est largement favori parce qu'il dispose de moyens énormes que les autres candidats n'ont pas.
Marie-Roger Biloa, les caciques de la ZANU-PF seraient-ils mécontents des options prises par Emmerson Mnangagwa qui veut réformer le pays après avoir été le patron de l'armée et de la sécurité?
Absolument, c'est intéressant parce que il y a la personnalité de Emmerson elle-même. C'est lui qui était l'âme damnée de Mugabe, qui a mené toutes les basses œuvres, notamment la répression dans le Ndebele-Land, où il y a eu des milliers de morts.
80 000.
Vraiment, c'est quelque chose d'énorme qui peut pas ne pas avoir de suite. Ensuite, il y a une autre possibilité, c'est que au sein de l'armée, celui qu'il a nommé vice-président, qui était responsable de l'armée sous Mugabe, et que c'est lui qui l'a poussé dehors d'ailleurs, Constantino Chiwenga, il est considéré comme son rival. Et le coup, à mon avis, ne peut pas venir de l'extérieur. Et ne peut même pas venir des partisans de Madame Grace Mugabe, même si elle est mécontente, même si ils sont prêts à tout, peut-être, pour stopper Mnangagwa, mais ils n'en ont pas le pouvoir. La force de Mnangagwa, c'est de maîtriser l'armée. Il maîtrise l'armée, mais c'est assez fort, mais en même temps, le problème ne peut venir que de là. pas de l'opposition. Et troisièmement, notre possibilité, c'est que, bon, c'est des gens qui sont à l'extérieur, mais enfin, ça montre quand même le mécontentement vis-à-vis de Mnangagwa. C'est que lorsqu'il était ministre de l'Habitat, il a fait expulser des gens vraiment au bulldozer, des quartiers entiers, avec 600 000 personnes déplacées qui, comme par hasard, étaient surtout des partisans de l'opposition, n'est-ce pas? Et enfin, en 2008, quand il y a eu les élections très contestées de Mugabe, c'est lui qui, on accuse d'avoir poussé Mugabe à une répression terrible. Il y a eu à peu près 300 morts du côté de l'opposition. Donc ça fait que c'est une personnalité très clivante. Et au sein de l'armée, on a vu les bombes, on peut dire, aussi les grenades, on sait que ça venait de l'armée. Et ce qu'il va essayer de réformer maintenant, c'est peut-être de défendre son clan, parce que c'est un peu ça. On l'a accusé aussi de s'être beaucoup enrichi avec les mines d'or de
RDC.
Oui, complètement, on ne sait pas. Bon. Donc, la personnalité de Mnangagwa, à mon avis, c'est là qu'est le problème. Ce n'est même pas Grèce. Grèce n'a pas beaucoup de pouvoir. C'est au sein de l'armée, où il y a beaucoup de rivalités. Et nous, même le fameux Chiwenga, qui est vice-président, n'est pas très content. C'est lui qui a poussé Mugabe dehors. Et c'est l'autre qui va être président. Il y a beaucoup de soucis à ce niveau-là.
C'est vrai que Malik Diawara, c'est une situation atypique que connaît le Zimbabwe, parce que malgré le départ de Robert Mugabe, ce coup d'État qui l'a poussé vers la sortie, le parti est resté le même depuis 37 ans, c'est la ZANU-PF qui gère le Zimbabwe, et puis les acteurs sont toujours les mêmes, comme le rappelait Marie-Roger Biloir.
Est-ce qu'on ne peut pas se poser la question de savoir si aujourd'hui, en fait, au Zimbabwe, même s'il y a eu un coup d'État et que Robert Mugabe est parti, est-ce qu'on ne peut pas se poser la question de savoir que finalement, rien n'a changé, ou presque? Oui. Je pense qu'on peut vraiment aller dans ce sens, parce que justement, je dirais que c'est presque un combat, bon, comment expliquer ça, camouflé, on va dire, entre diverses personnalités donc de l'armée.
C'est une affaire de famille.
Voilà, c'est une affaire de famille. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Mnangagwa n'a même pas essayé de dire que c'est l'opposition. Donc ça veut dire que lui, il sait que son problème numéro un se trouve à l'intérieur. Alors cela présage peut-être, je dirais, c'est d'une manière d'anticiper aussi des difficultés qui vont venir, parce qu'il va falloir faire des réformes sur le plan économique, qui sont quand même des réformes de grande importance, la réforme foncière, etc., remettre le pays à flot, s'ouvrir, et là, il a fait toute une démarche, je dirais, de séduction au niveau international, rassurer, parce qu'on ne sait plus trop quand on
va là.
Aujourd'hui, on n'a pas trop de visibilité, vraiment, sur le plan politique. Évidemment, il y a eu cet attentat, donc ça va peut-être consolider un peu, etc., ça va peut-être l'aider à être un peu plus
légitime. Et à faire une purge. J'attends les élections, il y aura une purge terrible.
Moi, Hassan Diop.
C'est exactement.
C'est à quoi
j'ai pensé. Je pensais, que j'ai tenté d'expliquer au début de mon intervention, c'est qu'effectivement, il attend probablement d'être confirmé à sa place avec la légitimation des urnes, et puis ensuite de se livrer à des purges. Mais on va y arriver. Et se livrer à des purges, c'est pas forcément la décision du président d'aller arrêter Madame Grace Mugabe pour l'envoyer en prison. Et le recours à la justice suffira, tout simplement parce que Madame Mugabe traîne pas mal de casseroles, notamment sur
des faux diplômes,
l'argent, où est parti les prévarications, même si M. Mnangagwa et son clan se sont aussi enrichis sur le dos de la bête. Mais il n'empêche qu'effectivement, à mon avis, encore une fois de plus, c'est une affaire de famille. Et ce qu'on peut retenir, c'est qu'une fois que M. Mnangagwa sera confirmé, eh bien, il va se débarrasser de ceux qui pourraient lui nuire. Et qu'effectivement, ça ne s'arrêtera peut-être pas uniquement au clan pro-Mugabe ou pro-Grâce Mugabe.
Moi, je voudrais ajouter le fait que aussi, il aura peut-être intérêt, et il le fera avec d'autant plus de force, qu'il faudra faire taire ceux qui savent.
Absolument.
Ça, à mon avis, ça va être...
Mais alors, Marie-Roger, les attentes de la population sont quand même très grandes. Elles espèrent un retour des belles années de la Rhodésie.
Oui, tout à fait. Alors, on attend des réformes. Et il faut noter que le même jour, il y a eu un attentat en Éthiopie. C'était aussi un meeting avec un nouveau Premier ministre qui est réformateur. C'est-à-dire, à partir du moment où, dans des systèmes qui sont un petit peu,
je dirais,
des partis États un peu congelés, comme l'était le Mugabe, comme était celui de Mugabe. À partir du moment où on commence à toucher, à faire un peu quelques réformettes, parce que là, il n'a pas encore les coups des franges, il attend la fin il attend les élections, mais quand même, dès que ça commence à bouger, on entre tout de suite dans la zone de danger. On a vu en Éthiopie, et bon. Mais les réformes à venir sont assez, sont ambitieuses.
Alec Diawara, pour terminer sur le Zimbabwe, pour la première fois en 37 ans, ans. Ces élections générales acceptent la venue d'observateurs de l'Union européenne. C'est tout de même un gage de transparence.
C'est un gage de transparence, mais en même temps, il faut faire attention. Je crois que c'est pas parce qu'il y a des observateurs que les élections se passent bien. Surtout que quelquefois, les observateurs, je ne sais pas
c'est un gage d'ouverture.
Oui, voilà. C'est la première fois. Hein.
Voilà, disons que
37 ans, c'est la première fois.
Il y a eu des observateurs de l'Union africaine, voilà. Déjà,
les étrangers.
Voilà.
Je pense aussi que ça rentre dans sa stratégie, je dirais, de séduction. Parce qu'il faut montrer que sur le plan politique, c'est stable.
Voilà. Faut donner des gages.
Faut donner des gages.
Les observateurs aujourd'hui.
Et puis après, pour tout ce qui concerne les réformes, etc. Bon, ça c'est la partie économique. Mais il faut d'abord que les gens soient rassurés, parce qu'aujourd'hui, quand on pense Zimbabwe, on pense politique. On a oublié que c'était un pays extrêmement riche. Moi, je me rappelle à une certaine
époque.
Sur le plan agricole, c'était quand même l'un des tout premiers.
Le grenier de l'Afrique de l'Est.
Producteur de tabac.
Et maintenant, ils ont des diamants.
Au moment où l'Afrique du Sud était sur le point de s'ouvrir, honnêtement, on disait que les pays phares en Afrique australe, c'était le Zimbabwe et l'Afrique du Sud. Et franchement, aujourd'hui, il n'y a pas photo entre les deux pays, donc ça veut dire qu'il y a quand même un grand écart à combler.
À présent, la CEDEAO, le Maroc, la Tunisie et la Mauritanie, aux portes de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, un marché commun qui compte 200 millions de personnes et qui ne manque pas d'attrait pour les nouveaux adhérents, 60% des terres arables et de nombreuses matières premières à Hassan Diop.
Oui, alors, je pense que cet embouteillage à la porte de la CEDEAO en provenance du Maghreb signifie la mort de l'Union du Maghreb arabe d'abord. C'est-à-dire que sur les 5 pays qui ont constitué cette entité, souvenez-vous, en 1989 à Nouakchott, eh bien 3 sur 5 veulent maintenant intégrer une organisation subsaharienne. Mais oui, c'est du réalisme tout simplement. C'est que en fait, il s'agit de regarder. Il s'agit même pas de raisonner en termes de chiffres. Il s'agit de regarder. Pourquoi les Chinois se ruent en Afrique? Pourquoi les Occidentaux continuent de lorgner sur l'Afrique subsaharienne, etc., etc. Alors ils se disent, mais nous sommes sur le continent, profitons-en. Et c'est ce qu'ils font. Et le Maroc, effectivement, de ce point de vue, je crois, a ouvert le chemin.
C'est-à-dire, il y a deux longueurs d'avance.
Avec deux longueurs d'avance. En fait, le vrai précurseur, c'était Kadhafi. Sauf que Kadhafi liait ses investissements à une espèce de domination arrogante, on a vu au Mali, etc. C'est-à-dire que quand il apportait de l'argent pour investir dans l'hôtellerie, etc., etc., lui-même se transportait comme le vice-roi du pays, etc. Il s'était teinté d'une idéologie ou d'un sentiment.
Ça, c'était du folklore.
Alors que le roi du Maroc, lui, effectivement,
il a une stratégie.
Il n'arrête pas de.
Kadhafi en avait une aussi.
Oui, mais pas la même. Beaucoup plus attractive, plus respectueuse. Il multiplie les voyages, etc. Il investit. Il y a de l'argent, etc. Il rachète des banques et tout. Il y a d'ailleurs là-dessus pas mal de théories, plus ou moins fâcheuses. Mais enfin. Reste que, voilà, l'Afrique, effectivement, le fait que ces pays du Maghreb veulent se tourner vers la CEDEAO, ça veut dire qu'il y a des signes de vitalité en Afrique subsaharienne, contrairement à ce que l'on dit. Mais, il faut pas que ce soit un marché de dupes. Il faut pas que ce soit au détriment des autres composants, c'est-à-dire des autres pays de la CEDEAO, de se voir dominer, par des structures,
Malik Diawara, est-ce qu'on assiste à une redéfinition des traditionnels espaces économiques aujourd'hui avec justement cet attrait de la CEDEAO pour les pays du Maghreb.
Ma lecture de tout ça, c'est certainement qu'effectivement l'Afrique est une nouvelle frontière, que on a un espace qui fonctionne quand même globalement pas mal, en tout cas qui a une ambition d'unité africaine bien affichée sur le plan des passeports, sur le plan de l'espace économique, et puis il y a le Nigeria quand même un très grand marché. Mais je crois que la démarche des 3 pays ne s'inscrit pas dans la même logique. Un pays comme le Maroc, pour moi, je dirais, continue un peu quelque part son histoire africaine. Je m'explique. Quand on regarde l'histoire des grands empires africains, qu'il s'agisse de l'Empire du Ghana, de l'Empire du Mali, de l'Empire Songhai, etc., etc., à des moments cruciaux, il y a toujours eu des Marocains qui sont intervenus d'une façon ou d'une autre. La dynastie des Idrissides, justement, qui sont considérés comme l'Étrique, il y avait des personnes qui étaient d'origine subsaharienne.
Mais il y a la même proximité avec la Mauritanie aussi.
Attention. La différence, c'est que le Maroc a gardé un lien, et notamment par le biais religieux de la Tijania.
Tout à fait.
Et ça, c'est important. C'est-à-dire que l'histoire militaire de départ est devenue après une histoire religieuse.
D'où après, elle est devenue Sénégal,
une histoire économique.
De la Tijania, voilà.
Et aujourd'hui, une histoire économique.
Il est devenu une histoire politique au moment de la naissance de l'organisation de l'unité africaine avec le groupe de Casablanca, etc., etc.
Et aujourd'hui, une histoire économique.
Voilà, c'est devenu un truc économique.
Parce que l'ambition du roi du Maroc, c'est de faire de Casablanca la porte de l'Afrique.
Mais c'est le hub. C'est-à-dire, moi, je vois bien le moment de basculement. C'est-à-dire qu'il y a eu une structure qui s'appelle le Casa Finance City, Casablanca Finance City. Et au début, tout le monde disait que c'était de la com. C'est-à-dire, effectivement, c'était de la com. Ils ont convaincu tout le monde. Ils disaient, Casablanca, c'est le hub, c'est le hub, c'est le hub.
Oui, mais est-ce que ce ne sera pas au détriment du Nigeria? Est-ce que ce sera pas au détriment du
Nigeria? Vous écoute, Marie-Rosée Bilois, franchement. Qu'est-ce qu'en tirent les pays subsahariens? C'est la question principale. Non. Là, aujourd'hui, le Maroc sort ses atouts. On sait, le Maroc sait les avantages qu'il peut tirer de son adhésion à la CEDEAO. Mais les pays africains, heureusement qu'il y a le Sénégal, heureusement qu'il y a le Nigeria. C'est les deux pays qui questionnent cette affaire en disant qu'est-ce que ça nous apporte.
Bien.
Alors,
non.
Le Maroc a pensé qu'il pouvait faire une espèce de razzia.
Mais pas
entrer.
Du tout.
Est-ce que je peux argumenter?
Le Maroc
se dit hub. Est-ce que vous savez que le Maroc...
Il ne se dit plus hub, il est devenu hub.
Il se dit hub. Alors, est-ce que vous savez que le Maroc a un accord de libre-échange avec l'Union européenne depuis 2002? Que vous savez aussi que le Maroc a un accord de libre-échange avec les États-Unis depuis 2004.
Oui.
À partir du moment où ils sont membres de la CEDEAO, c'est-à-dire que la frontière, il y a cette frontière extérieure, ces tarifs extérieurs communs. Ça veut dire que la frontière de l'Afrique, ce sera là-bas. Actuellement, ce qui se passe... Non, mais c'est la vérité. Le Maroc veut écouler les produits de différents pays, de l'Europe, etc.,
d'accord.
Alors que les Africains, eux, ne peuvent pas le faire en sans aide.
Bien entendu.
Mais c'est le seul pays du Maghreb qui est en train de régulariser des personnes.
Les membres de la CEDEAO sont-ils organisés?
D'abord, Marie-Roger, tous les problèmes que tu soulèves, à savoir la viabilité d'un tel partenariat, l'équité d'un tel partenariat, a été au centre ce 27 juin d'une réunion en présence de la commission économique de l'Afrique, pour l'Afrique de l'ONU, et cette réunion se tenait à Cotonou, c'est-à-dire évaluer le pour et le contre sur les aspects économiques.
Et le résultat.
Le résultat, évidemment, est attendu.
Ah ben, mais il faut quand même préciser que le Maroc a été le seul pays du Maghreb à régulariser centaines de migrants subsahariens.
Je pense qu'il faut avoir une vision que les pays sont libres de
Malik Diawara.
Les pays sont libres de dire que voilà les règles, etc. Le Maroc ne peut obliger personne. La preuve, les Sénégalais ont posé la question de savoir qu'est-ce qu'on y trouve, il faut y faire attention à ceci ou cela, et puis je conteste le fait que tu dises que...
Demande au patronat sénégalais, ils sont toujours contre cette
décision. Mais le patronat sénégalais veut discuter sur des éléments concrets pour que les conditions d'entrée du Maroc dans la CEDEAO ne se passent pas n'importe comment, une adhésion simple,
etc. C'est pour ça qu'il a fixé des règles.
Parce qu'aujourd'hui,
la Tunisie est observateur, mais le Maroc et la Mauritanie demandent une adhésion totale.
Oui, mais en fait, par exemple, quand on voit un pays comme la Tunisie qui veut rentrer dans la CEDEAO, on peut quelque part, je dirais, s'interroger entre guillemets, parce que tous les éléments historiques que j'ai dit, parce que
moi, on va passer, si vous voulez, on va donner la parole à Malik Diawara, qui est le rédacteur en chef du Point Afrique. Que faut-il retenir de ce hors-série spécial Afrique?
Alors, le hors-série s'installer en Afrique, donc, est un guide pratique pays par pays, dont l'objectif est de permettre, en fait, à toutes les personnes qui s'intéressent à l'Afrique pour travailler, pour investir, pour entreprendre ou pour étudier, de se faire une idée la plus précise possible pour pouvoir y aller et ne pas se retrouver coincé, je dirais, d'un bureau à un autre et à ne pas savoir comment s'y prendre. On a adopté une approche globale pour expliquer globalement quel est donc l'environnement et après on a fait des fiches pays par pays. C'est un document extrêmement pratique qui veut vraiment permettre de promouvoir l'Afrique au sens concret du terme, y compris pour que les Africains d'un pays puissent aller dans un autre pays, parce qu'on est aussi dans une logique d'intégration. C'est pas seulement pour que les gens qui sont à l'étranger viennent, c'est pour que les Africains puissent circuler aussi entre les pays.
Ça sera utile pour les vacances, Hassan Diop et Marie-Roger Bilois.
Pour les vacances, voilà. Ça prouve que l'Afrique intéresse.
C'est la fin d'Afrique Presse. Merci à vous, Malik Diawara du Point Afrique. Merci à Hassan Diop de Radio France Internationale et à Marie-Roger Bilois d'Africa International. Vous pouvez revoir et réécouter cette émission sur les sites de RFI et de TV5 Monde, ainsi que sur l'appli TV5 Monde Afrique. Toute l'équipe du magazine vous donne rendez-vous le 8 septembre.